Je vous invite sans plus tarder à suivre l'émission en dialogue congolais avec Kelly Koudé. Soir comme promis hier, je vous retrouve encore ce soir pour parler du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, discours prononcé à l'occasion de ses 3 ans à la tête de la RDC comme président élu démocratiquement. Et pour ce soir, nous aborderons l'aspect économique et social du discours de Joseph Kabila. En ce qui concerne le social, Joseph Kabila a déclaré que l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation vont passer en priorité des 5 chantiers dès l'année 2010. Comment analyser cette promesse du président de la République à la population congolaise? 3 invités sont avec moi dans cette émission pour le débat, à savoir Martin Mukonkole, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire Ordre des démocrates républicains. Il est en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, madame.
Pakiza Pamba, député national et vice-président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale. Il est aussi en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, je suis rapporteur adjoint de GPI.
Merci honorable. Et Maître Patti Lendo, qui n'est pas encore avec nous dans ce studio, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Vous êtes nombreux à nous écrire, vous, nos auditeurs. C'est le cas de Joe Matanga depuis Gisenyi, Rwanda, qui pense que l'idéal serait pour le chef de l'État de démontrer par quel mécanisme il va arriver à tenir ses promesses. À son humble avis, les Congolais sont fatigués des discours. Laurent Gandou de Lubumbashi au Katanga demande comment la RDC pourrait assainir le climat des affaires alors que les pots de vin sont exigés par les hauts responsables du gouvernement quand il s'agit de passer des marchés publics. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous venons de recevoir Maître Patti Lendo, il est analyste politique. Bonsoir Maître.
Bonsoir.
Parlant de l'aspect social, le président Joseph Kabila a annoncé hier dans son discours que pour l'année 2010, la priorité sera accordée aux infrastructures scolaires, hospitalières, des distributions d'eau et d'électricité. Nous vous proposons d'écouter un extrait du discours de Joseph Kabila dans son aspect social, sélectionné par Samuel Kachak.
Nous nous entêtons à construire un Congo en phase avec le monde, avec ses potentialités, avec les aspirations de ses enfants. C'est pour cette raison que dès l'année prochaine, l'accent dans la mise en œuvre de 5 chantiers sera déplacé du secteur de transport aux infrastructures scolaires, hospitalières, de génération et de distribution d'eau et d'électricité, ainsi qu'à celles liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une enveloppe d'$1,4 milliard est prévue à cet effet pour la seule année 2010, dans le cadre de contrats signés entre la République et le groupe d'entreprises chinoises. Ces décisions ont pour objet de mieux préparer notre pays aux enjeux du 21e siècle. Nous voulons pour le Congo les meilleures écoles possibles, les meilleurs hôpitaux possibles, les entreprises les plus performantes possibles, les citoyens les plus responsables possibles.
Honorable Patiza Pamba, vous êtes député national et rapporteur du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale. Le président a annoncé que l'accent sera mis en 2010 sur l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité et plus d'$1 milliard sont déjà disponibilisés à cet effet. Comment avez-vous accueilli cette annonce du chef de l'État?
Je crois que, madame le journaliste, merci d'abord pour la parole, qu'il faut féliciter le chef de l'État pour son discours qui a presque touché toute la situation de la nation. Comme vous me demandez d'analyser les promesses du chef de l'État à la population, je le ferai non seulement en fonction des bribes d'informations à ma disposition, mais surtout en fonction du desiderata de cette même population, et laquelle population, vous savez, attend beaucoup de ce discours du chef de l'État. C'est très bien pour les chefs de promettre, car toute parole qui sort, n'est-ce pas, de sa bouche, donne de l'espoir. Et à cet effet, nous le remercions parce qu'il a très bien joué son rôle. Mais la tâche la plus difficile, madame le journaliste, c'est que c'est la matérialisation de ces promesses. Vous venez de suivre tout à l'heure qu'il y a 1,4 milliard Et vous venez de dire de disponible. Moi, je m'en tiens surtout aux moyens. Avant de, d'ailleurs de passer aux moyens, la matérialisation de ces promesses, je crois, dépend d'abord des hommes. Parce que, à mon humble avis, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et parce que je parle de l'homme, vous savez que ça fait 3 ans que nous votons des budgets en République démocratique du Congo, où nous plaçons, n'est-ce pas, l'homme au centre de ce budget, mais il se fait malheureusement que ces budgets ne sont pas exécutés tels que nous le programmons. Mais cette fois-ci que le chef de l'État vient de prioriser, il vient de dire que 2010, c'est l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Donc il faudra, en ce moment-là, que ceux, chacun des ministres, à mon humble avis, depuis hier, ils ont suivi le président de la République, chacun dans son département, devait déjà tirer l'épingle du jeu. Chacun devait déjà se mettre au travail pour voir de quelle manière on devait donc matérialiser ce problème, cette promesse du chef de l'État. Parce que la population, 3 ans après, attend. Et c'est celle-là, pour moi, la plus grande préoccupation. Comment on va offrir de l'eau? Comment on va offrir de l'électricité? La santé, l'éducation, avec qui? Parce que pour les moyens, je viens de suivre qu'il y a déjà au moins un contrat sur le contrat sino-congolais avec 1 400 millions. Mais la problématique, c'est de savoir quelle sera l'affectation rationnelle, quelle est la planification effective. Et tout cela, en principe, doit être prévu au niveau des animateurs des institutions et surtout le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a la charge d'exécuter, n'est-ce pas, le projet. Je dois vous dire, madame, pour terminer, que nous venons déjà de mettre le budget en chantier. Vous avez compris que l'Assemblée nationale a adopté le budget et maintenant il est en seconde lecture au niveau du Sénat et que nous avons prévu des rubriques précises. Maintenant, il va falloir qu'on exécute le budget en appliquant, n'est-ce pas, la bonne gouvernance, en affectant rationnellement les dépenses, et en ce moment-là, on peut espérer qu'on peut commencer avec un peu de volonté politique, avec la bonne gouvernance, avec une affectation rationnelle, et surtout que cet argent-là, le 1 milliard, serve aux investissements productifs pour que le peuple congolais puisse, n'est-ce pas, retrouver ne fût-ce que le minimum de toutes ces promesses.
Merci, honorable. Honorable Martin Moutonkolé, vous êtes en ligne, vous êtes député national, membre de l'opposition. Comment analysez-vous cette déclaration faite par le chef de l'État qui décrète l'année 2010, année du social?
Et madame, je tiens d'abord à vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez. J'ai beaucoup apprécié l'analyse faite par mon collègue Farsi Zafamba parce qu'il est de la majorité. Et moi, je vais vous dire que je suis d'abord content que le chef de l'État ait respecté les principes constitutionnels qui lui obligent de faire l'état de la nation auprès des représentants du peuple que nous sommes réunis en congrès. Il a tenu à cette formalité-là, il l'a fait. Mais en le faisant, le chef de l'État a bien dit que pour l'année prochaine, il a l'accent sur le social, sur l'eau, l'éducation, la santé, et il a aussi même parlé de la communication, mais madame, il a même parlé d'un montant d'un milliard 400 millions. Je me dis, moi je suis l'autorité budgétaire, les 1 milliard 400 millions, c'est de l'argent qui se retrouve ou dans les budgets de l'État, ou c'est de l'argent qui viendrait comme ça, pour quel objectif? Et je me dis aussi, madame, est-ce qu'il y a un chronogramme pour la matérialisation? Quelle quantité pourra être saupoudrée dans les différentes provinces pour qu'on s'assure qu'on va réellement donner de l'eau, on va donner du courant, on va donner les centres de santé, on va disponibiliser ça en 2010. Moi, je me dis, madame, il y a de ces choses qui ne pouvaient pas être dites à ce moment ici parce que le chef de l'État s'est retrouvé devant les représentants du peuple pour faire état des lieux de l'exécution de ces différentes promesses qu'il avait pu faire et qu'il avait confié comme mission au gouvernement afin de matérialiser cela. Vous avez même suivi mon collègue Fassi Pamba, il vous dit qu'il a une difficulté de savoir la matérialisation de ce qui a été fait. Il dit qu'il y a même un problème d'homme. Nous avions toujours dit qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance de notre pays. Et nous n'avons pas un exécutif qui peut matérialiser les différentes idées qui doivent être comme les fils de lance de notre société sur le plan social. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Est-ce que nous avons un gouvernement qui peut nous dire comment ça sera saupoudré au niveau de toutes les provinces? C'est ainsi que nous nous estimons. C'est une très bonne déclaration, mais ça risque d'être une déclaration qui resterait toujours dans la logique des slogans, enfin de voir à la fin de l'année 2010 le chef de l'État être encore déçu du comportement que pourra afficher le gouvernement qui pourra aligner à ses niveaux, parce que 3 ans, s'ils n'ont pas pu faire ce que lui veut, est-ce que le chef de l'État est sûr que ces messieurs auront à faire ce qu'il veut dans une année? Ça fait partie des grandes questions que nous nous posons, parce que moi j'ai besoin. Et cet argent-là ne soit pas disponibilisé encore, comme lui-même l'a dit, que ce soit l'argent qui sera disponibilisé pour les études et pour les expertises, que ce ne soit pas l'argent qui sera vraiment pour rien, afin que ça ne puisse pas profiter au social de la population. J'aurais souhaité que j'appelle aujourd'hui à Popocatépetl, il y a de l'eau, il y a du courant, il y a des centres de santé. J'aurais souhaité accepter qu'aujourd'hui que j'appelle Kakabinda, à Niadi, que j'appelle aujourd'hui Kaïsiro, que j'appelle Kaubundu. Tout ça est arrivé, mais ce n'est pas. C'est l'argent qu'on va donner aux gens qui vont rester dans les études, qui vont rester dans l'expertise. Tout l'argent sera consommé ici, ici, pas dans les différents ministères, sans avoir rien fait. Je crois que c'est une très forte interpellation que les chefs de l'État comprennent, que tous ceux qui ont la responsabilité de gérer ce secteur-là, ayant échoué, ils acceptent que les gouvernements puissent rendre l'établi afin qu'ils trouvent d'autres personnes qui peuvent l'accompagner pour atteindre ses objectifs. Sinon, il va faire un bilan négatif à la fin de son mandat.
Merci, honorable M. Patilindo. Vous êtes analyste politique. Vous venez de suivre les points de vue de nos deux députés. Les deux, apparemment, sont sceptiques quant à la matérialisation des promesses du chef de l'État. Votre réaction?
Merci. Je ne saurais pas partager mon scepticisme ici. Néanmoins, j'ai suivi le discours du chef de l'État avec beaucoup d'attention. Je me réjouis en fait du tableau descriptif de la situation du pays tel qu'il a brossé. Mais ici, je voudrais dire d'emblée que quand le chef de l'État dit que l'année 2010 sera axée sur le social et en évoquant les 5 chantiers, je me dis sincèrement, si moi j'ai applaudi aux 5 chantiers, c'est parce qu'en fait, le 5 chantiers a pour point culminant, à mon humble avis, le bien-être du peuple congolais. Parce que si vous analysez les 5 chantiers dans ces différents branchements, vous allez vous rendre compte que tous ces branchements culminent vers le bien-être du peuple congolais. Bon, maintenant qu'il a extirpé, en fait, le volet social du grand, contenant le 5 chantiers, je me demande comment cela va se faire, mais aussi, il y a un autre problème que j'ai noté, c'est celui, bien sûr, du chronogramme. Et voyez-vous, nous en sommes presque à la porte du premier mandat qui était, en fait, qui avait plutôt pour politique générale la réalisation des 5 chantiers. Et je pense sincèrement qu'il aurait fallu que le chef de l'État fasse d'abord un bilan sans complaisance de ce qu'a été la réalisation des 5 chantiers dans les 3 années qui viennent de s'écouler pour que, en fait, il puisse avoir des projections de ce qui reste à faire. Maintenant qu'il a accès, sa politique de 2010 est sur le social. Et voyez-vous que ça pose un problème. Le chef de l'État donne juste les grandes lignes, l'électricité, l'eau, la santé, ainsi de suite. Mais prenons le cas de la santé. Mais qu'est-ce qui va être fait? Ce sont des peintures qu'on va mettre dans des édifices affectés à la santé publique ou c'est la politique de la santé publique qui va connaître et pratiquement une certaine révolution. Comme il a dit dans son premier discours de 2006, je crois, 7 janvier si je me trompe, ou 2007, eh bien, ça c'est aussi un problème. Il a parlé de l'électricité. Mais le Congo est si vaste, qu'est-ce qui va être fait sous le couvert de cette politique de l'électrification, si vous voulez, du pays? Mais là, ça pose aussi des problèmes. Donc, je pense sincèrement que, par-dessus tout ce qu'il peut avoir comme bonne intention, le chronogramme pose déjà un problème et aussi, les contenus qu'il faut donner au concept, et c'est ici que vous avez suivi les déshonorables qui ont parlé avant moi, ils se sont mis d'accord sur le fait que, et c'est comme je l'ai toujours dit, si vous prenez les différents membres du gouvernement et vous leur parlez de 5 chantiers, vous serez surpris et d'avoir des sons pratiquement discordants, alors que les 5 chantiers devraient être une réalité et bien réelle dans les chefs de chacun des membres du gouvernement, parce que c'est en fait au gouvernement de pouvoir donner du contenu aux 5 chantiers. Mais je réalise avec amertume que ceux qui ont la charge de donner du contenu aux 5 chantiers se contentent de les mimer, voyez-vous. Donc les gens parlent Nous soutenons le chef de l'État dans la région des cinq chantiers. Mais vous êtes gouvernant, vous n'avez plus à soutenir par des messages, par des félicitations le chef de l'État. Vous devez plutôt vous appliquer là où vous êtes, à donner du contenu aux cinq chantiers. Mais ici, il faut reconnaître, je crois, pince sans rire et la main dans l'âme, que les trois ans après, les cinq chantiers sont entrés un peu de balbutier, pour ne pas dire de se pousser. Mais néanmoins, et l'aspect infrastructurel, nous voyons, il y a des sentiers qui sont réellement ouverts, mais quand le président dit 2010 sera action sociale, il a évoqué la santé, l'éducation, l'électricité et l'eau. Serait-ce encore des sentiers qu'on va ouvrir dans l'électrification de certains coins du pays, dans l'adduction d'eau de certains autres coins, et dans la construction de certains édifices affectés à la santé, à l'éducation, et ainsi de suite, on se serait comment? Voilà en fait ce que je peux noter dans un premier temps.
Merci Maître Patilindo. Honorable Patisa Pamba, il y a Pascal Béa de Lubumbashi au Katanga qui dit ceci. Alors qu'il est, on ne devrait plus parler de la mise en œuvre des cinq chantiers, mais plutôt de l'évaluation et de l'évolution de ces chantiers trois ans après leur lancée théorique. Sinon, nous risquons de parler de cette mise en œuvre jusqu'en 2011 et finalement, rien ne sera fait. Un discours de plus avec d'autres tournures littéraires ne suffit pas. Il faut passer à la vitesse supérieure.
Oui, madame, il a raison parce que moi j'ai la même vision que lui et en tant qu'élu du peuple, nous avons toujours, même lors du vote du budget, nous avons toujours parlé des actions à impact visible. Lorsque le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, priorise en 2010 l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, je crois comprendre qu'il va s'agir des actions concrètes à des points bien définis, c'est-à-dire au niveau, je crois, des 144 territoires qui existent en République démocratique du Congo. Au moins, chaque territoire va bénéficier, ne fût-ce que d'un puits de forage, là où la régie des eaux n'est pas encore installée. Je crois comprendre que chaque zone de santé doit vivre effectivement et que l'on soit capable d'y trouver ne fût-ce qu'un comprimé d'aspirine ou de Nuvacune. Je crois comprendre que l'électricité, là où la SNEL n'est pas encore installée, de groupes électrogènes ou de solutions alternatives. En ce qui concerne l'éducation, je crois comprendre que des écoles, comme j'ai entendu dernièrement dans le discours, que des écoles vont être construites par territoire. Et pour cela, il faut une planification. Parce que n'oubliez pas, madame, que lorsque nous sommes en train de parler de tous ces éléments-là, nous sommes aussi en face de la crise financière et alimentaire. Et d'autre part, le gouvernement qui est chargé de mettre en exécution revient toujours à la crise et il y a l'absence, n'est-ce pas, de la maîtrise des paramètres macroéconomiques. Il y a absence d'une bonne gouvernance. Le non-respect de la chaîne des dépenses. Comprenez que les réformes qui ont été votées à l'Assemblée nationale, qui devaient permettre, n'est-ce pas, au gouvernement de mobiliser les ressources qui devaient permettre la réussite de cinq chantiers. Parce que jusque-là, je crois comprendre que le 1 milliard 400 auquel a fait allusion le chef de l'État, c'est du contrat sino-congolais. Mais nous avons aussi des ressources internes, des ressources que le gouvernement n'arrive pas à mobiliser. C'est pour cette raison que je crois que cette fois-ci, en 2010, il faut qu'on talonne les actions à impact visible. Il faut que dans chaque coin de la République, on sente quand même que le pays est dirigé par un gouvernement dont le chef de l'État est le garant. Et pour ce faire, il faut donc, comme j'ai dit lors du démarrage de cette émission, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, avec un chronogramme, comme venait de le dire les collègues qui sont intervenus, les collègues Moukonkole, avec un chronogramme et aussi avec une action parlementaire, c'est-à-dire, quand je parle du Parlement, avec un contrôle rigoureux.
Donc, mais justement, honorable.
Et le contrôle va suivre pas à pas pour que l'année 2010 puisse être l'année qui doit répondre aux préoccupations du chef de l'État et des élus que nous sommes, parce que la base attend de nous ce que le chef de l'État a prononcé dans son discours.
Oui, honorable, là, j'ai l'impression que vous accusez tous dans le gouvernement, mais vous, à l'Assemblée nationale, vous faites quoi quand le gouvernement n'exécute pas?
Effectivement, nous n'avons pas l'objectif premier de démettre le gouvernement à tout moment. Vous sentez que à tout moment, il y a des interpellations, il y a des questions orales, il y a des questions écrites. Vous savez, tout cela sont des mécanismes que la loi met à notre disposition pour que chaque membre du gouvernement qui ne répond pas ou qui quitte la ligne maîtresse tracée, nous les ramenons à l'ordre pour qu'ils puissent exécuter. Mais malheureusement, je dois vous dire que cette fois-ci, le budget 2010 doit être le budget de tous les enjeux. Parce que chaque membre du gouvernement, si ce ne se sentira pas dans la peau de mobiliser les recettes, il n'a qu'à dire au chef de l'État en temps ici que moi, je ne suis pas capable de répondre, n'est-ce pas, aux cinq chantiers et au programme du discours du chef de l'État qui vise, n'est-ce pas, l'action sociale en parlant de l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation et même de la communication. Donc ceux qui vont refuser de mobiliser les recettes telles que prévues dans le budget 2010, je crois qu'il est temps qu'ils puissent déjà rendre les tabliers pour qu'on trouve des personnes susceptibles d'aider le chef de l'État à atteindre les objectifs de fin chantier de l'article.
Merci honorable Martin Moukonkole et à Eric Kakoura de Butembo Nord-Kivu qui dit ceci, que le gouvernement cherche de distraire le peuple avec ses discours car il est inconcevable de réaliser tout ce qu'il promet en 2 ans au moment où il n'a pas pu réaliser ça en 3 ans.
Et madame, je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur, parce que je vais d'abord, moi, insister sur le fait, les discours du chef de l'État, devant la nation, qu'il a pu prononcer ce lundi ici, et peut-être qu'il a été trop politique, mais le chef de l'État a réellement compris que ce n'est pas avec ce gouvernement qu'il peut arriver à matérialiser son programme pour lequel il avait été élu, basé sur les 5 chantiers. Quand vous lisez tout ce qui a été retenu au niveau des 5 chantiers, il vous dit, à part les infrastructures, nous rentrons dans les autres aspects qui font partie du 5 chantiers. Il a compris que les gens qui devaient l'accompagner ont échoué. Il ne faut pas qu'on se voile la table.
Ça, c'est pas une compréhension du discours du chef de l'État, honorable Martin Moukonkole.
C'est la véritable lecture. C'est ici la lecture qui est faite par notre peuple. Il ne faut pas qu'on arrive à entrer toujours dans des distractions inutiles. Je vous fais la véritable lecture. Le chef de l'État, politiquement, il a été plus stratège pour dire qu'il ne veut pas frustrer les gens à qui il a fait confiance parce que ces gens m'ont amené à un échec. Maintenant, il dit dans les 2 ans qui me restent, qu'est-ce que je dois faire? C'est ainsi qu'il dit qu'il préfère qu'il commence maintenant la matérialisation de ces chantiers. 2 ans avant. Est-ce que ça sera possible? C'est ainsi que moi je dis, au jour d'aujourd'hui, ne nous voilons pas la face parce que, à supposer que nous prenons les aspects qui ont été soulevés sur les plans sociaux. Est-ce que, même si on doit construire des écoles, quand est-ce qu'on va construire des écoles dans chaque territoire? Est-ce que moi qui suis l'élu de l'intérieur, comme tant d'autres, quand on voit les dimensions des territoires, un territoire a combien de villages, combien de collectivités, combien de groupements? Est-ce qu'une seule école pourra suffire? Combien de zones de santé nous avons? Combien de villages nous avons? L'électrification, est-ce qu'on doit tenir compte des territoires? On doit tenir compte des villages. Or, moi, je tiens qu'on tienne compte des villages. Que dans chaque village, qu'on arrive à être en mesure d'avoir soit une école, et ce sont des villages rapprochés, où il y a du courant, il y a aussi les centres de santé. Or, madame, par le temps qui court, dans les 2 ans, je ne pense pas, il y aura à réaliser. Parce qu'on n'a même pas commencé quelque part. Et ce qu'on devrait commencer, c'est vraiment les gouvernements. Les gouvernements avaient l'obligation de matérialiser la vision du chef de l'État. Mais il est regrettable. Nous l'avons toujours dit qu'il s'est entouré des gens qui sont là pour leurs propres intérêts au lieu de faciliter le développement de notre peuple. Nous ne disons pas parce que nous sommes opposants, mais parce que nous avons un mandat de notre peuple qui attend la matérialisation de ces chantiers. On va les matérialiser avec qui? Et mon collègue, effectivement, m'a dit qu'il y a crise d'ordre. Lui-même, le chef de l'État avait dit qu'autour de lui, il n'y a même pas 15 personnes. C'est ça la difficulté que nous avons. C'est qu'après des bonnes intentions que le chef de l'État est en train de rappeler tous les jours ou de réciter tous les jours, seront matérialisés qui? Ce sont là les grandes questions. Nous avons besoin que les 5 chantiers se matérialisent.
Attendons voir 2010 pour la matérialisation de l'État.
Je vous dis aujourd'hui, nous n'avons pas de route. Comment on va construire une école si on arrive à la construire au niveau des cabines dans mon territoire, les territoires qui a combien de villages, quand on va à Lubao, quand on va à Miel, il y a beaucoup de vous expliquer les quelques territoires, même ici dans les Bakongo au niveau de Manzambou. Nous avons des problèmes sérieux. Est-ce que les membres du gouvernement on planifiait, on identifiait les différents besoins, on matérialisait ce que cela de pouvoir commencer même par poser des actes. Ça n'a jamais été fait, madame. Les gens ne sont pas conquis même par les peuples, c'est tout ce qui sont au niveau du gouvernement. Et c'est comme ça que nous nous disons. Mais voilà même la petite contradiction, madame. Cet argent-là, quand même, peut-être du contrat chinois. Pensez-vous que là où il y a un gouvernement, on va tenir compte d'une certaine assistance d'un contrat qui vient des partenaires, qui n'est pas impliqué dans les budgets de l'État. C'est-à-dire, nous n'avons pas un gouvernement. Si nous voulons vivre par les dons, par les assistances, qu'on lève l'option, qu'on soit ce qu'on doit faire. Et si on a besoin d'un gouvernement. C'est là où j'ai dit, les amis qui ont trompé toujours qu'ils étaient de la majorité, ils n'étaient pas de la majorité pour servir les peuples, ils ont été de la majorité pour se servir eux-mêmes. Et ça, ce sont des choses que notre peuple doit comprendre aujourd'hui. Et nous devons rendre compte à ceux qui nous ont envoyés là où nous sommes et ceux qui attendent de nous que nous fassions leur volonté. Voilà, madame, tout ce qu'il y a comme souci, tout ce qu'il y a comme préoccupation, nous nous disons, on a besoin qu'il y ait du courant dans chaque village. On a besoin qu'il y ait de l'eau dans chaque village. On a besoin qu'il y ait une école dans chaque village.
On vous a compris, vous nous avez déjà dit ça, Maître Patti Lendo, il y a un auditeur qui dit ceci, le président doit passer de la parole aux actes concrets avec un suivi conséquent, sans fonder son espoir sur son entourage, au risque que ses promesses ne deviennent un slogan qu'on a déjà entendu dans le passé.
Ben, c'est plus qu'une sagesse que cet auditeur a pu évoquer, vous savez. Je dirais ceci, par-dessus tout ce que j'ai dit avant, le chronogramme qui serait défaut, croyez-moi, les grands travaux, ils ne sauraient pas se réaliser en l'espace de 12 mois, concrètement ce serait presque impossible. Et aussi il y a un autre problème, souvenez-vous, et du lancement des différents chantiers que le chef de l'État a procédé, et lui-même, et tout le timing qu'on avance finit par être trahi dans la réalisation même des travaux. C'est autant dire qu'il y a aussi un problème d'appréciation de l'exécution des travaux sur terrain. Mais ce que l'auditeur a dit, et cela est tout à fait fondé, d'autant plus que le Congo souffre encore d'une maladie que je considérerais comme congénitale. C'est celle de la mauvaise qualité de l'homme. Vous savez, il faudrait qu'il y ait des adeptes, en fait, du chef de l'État qui comprenne son souci pour qu'en fait conduise le chef de l'État à la réussite de ses promesses. Mais si lui-même il a dit qu'il n'en trouvait pas encore, et je pense que le temps qui court risque de contredire le chef de l'État dans ce sens que tout cela c'est bien bon, mais encore faudrait-il trouver de bons joueurs sur le terrain pour qui partagerait réellement le souci du chef de l'État.
Et vous pensez que ceux qui sont autour de lui ne partagent pas le souci du chef de l'État?
Ben, ce n'est pas moi qui ai dit que j'ai cherché plus de 15 collaborateurs sérieux. Donc, c'est dire que le chef de l'État a fait une certaine conviction de ce qu'est réellement son entourage.
Ça, mais il continue à travailler avec son entourage.
Et ben, c'est là où j'ai dit qu'il y a un problème d'homme. Vous savez, madame, je pourrais vous surprendre en vous disant ceci. Et Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, s'il n'avait pas de bons adeptes, croyez-moi, le christianisme n'en serait pas là où nous les trouvons aujourd'hui. C'est autant dire que le choix des animateurs constitue un problème sérieux. En plus du choix, je pense sincèrement qu'il va falloir commettre à des ministres des cahiers de charges, que le ministre nous dise, celui de l'énergie, qu'est-ce qu'il entend faire dans les 12 mois pour que nous ayons ne fût-ce qu'un début de commencement de la promesse du chef de l'État. Plutôt que de passer à la télé pour dire à n'importe quoi, nous soutenons les 5 chantiers, alors que les 5 chantiers sont 5 chantiers, et on ne sait plus qui fait quoi finalement sur le terrain.
Et donc, si je comprends bien, pour vous, c'est un problème d'homme. Donc, il faut l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut.
Absolument. C'est aussi un problème aussi, vous savez, on a parlé des milliards. Ce ne serait pas le premier milliard qui tombe sur le Congo. L'audit, il faut une discipline de suivi. Voyez-vous, parce qu'on a trop l'habitude de faire des fêtes partout, alors que quand on construit, on doit se serrer un peu la ceinture pour que ce qu'on fait puisse être visible sur le terrain.
Réagissons à l'adresse du chef de l'État dans son aspect économique et social, Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste MNP, un parti politique de l'opposition, pense que le bilan des 3 années de gestion du président Kabila est négatif sur le plan socio-économique. Selon lui, ces nouvelles promesses du président de la République, c'est du déjà entendu. On écoute Franck Diongo au téléphone de Samuel Kachak.
Sur le plan social et économique, les contrats chinois restent un contrat préjudiciable à la République. Sur le plan social, rubrique santé, éducation, logement, les besoins vitaux, le président de la République aurait dû donner des chiffres sur ce qui est fait. Il devrait dire combien d'écoles ont-ils construit, quelle a été l'amélioration des salaires de l'enseignant. Les médecins restent sous-payés, mal payés et impayés. Pendant les 3 ans, ils n'ont pas été à mesure de stabiliser les taux d'échange, ils n'ont pas été à mesure de stabiliser les prix, ce qui fait que la vie coûtait trop cher, dépréciation monétaire. Nous pensons que ce bilan est négatif, donc les nouvelles promesses, c'est déjà attendu.
Honorable Patrice Apamba, vous êtes député national et rapporteur du groupe parlementaire des indépendants, mais vous êtes proche de l'ANP. Pour Franck Zongo, le bilan est carrément négatif. C'est déjà entendu ces promesses du chef de l'État.
Oui, je ne veux pas aussi être si sceptique que nous le croyons. Je pense que par moment, nous devons essayer de révolutionner les choses. Moi, je suis d'accord avec le chef de l'État qui ait fait ce discours. Je suis d'accord aussi des avancées qui existent, mais je ne veux pas applaudir ces avancées tant que la population congolaise n'a pas encore trouvé son compte. C'est pour cette raison que je dis, il y a lieu d'espérer et que le discours du président de la République, n'est-ce pas, a donné de l'espoir une fois de plus à la population congolaise. Et c'est pour cette fin que je suis en train de croire que dans les jours à venir, aussitôt qu'on va démarrer l'année 2010, dès le mois de janvier, il faut qu'on s'assure qu'il y aura, n'est-ce pas, autant de kilomètres de routes de cantonnage manuelles qui vont être effectuées. Parce que lorsqu'on parle de Popocatépetl qui est par exemple à 400 km d'ici, il ne connaît rien de Saint-Chantier de la République. Mais tout ce qu'il faut, si on peut commencer par exemple le cantonnage manuel, je vous assure, madame les journalistes, que les populations villageoises, les populations rurales produiront leur manioc, les sésames, les liédés, et quand il y a désenclavement, ils vendront et ils résoudront certains problèmes par eux-mêmes. Donc, je voudrais dire que le nombre de kilomètres, le nombre d'écoles, le nombre de centres de santé qui seront réhabilités, il faut que les animateurs du Saint-Chantier disent que ce n'est pas possible que le tout se fasse en une année ou en 2 ans. Mais il faut qu'on commence quelque part et il faut qu'il y ait quelque chose. Chaque action à impact visible va permettre à la population de reconnaître l'autorité de l'État et de croire en ces 5 chantiers.
Merci,
voilà
merci,
ce que nous pensons que doit être la vision du gouvernement pour 2010 si on veut répondre aux préoccupations.
Merci, honorable. On vous a compris. Sans transition, nous passons à notre deuxième partie de cette émission consacrée à l'aspect économique. Sur le plan économique, Joseph Kabila a dénoncé l'absence de création d'emplois dans les proportions escomptées durant l'année 2009. Selon lui, le taux de croissance devrait au moins doubler d'ici l'année prochaine en passant de 2,7% à fin décembre 2009 à plus de 5,4% en 2010. Nous vous proposons d'écouter encore une fois Joseph Kabila dans cet extrait sélectionné encore une fois par Samuel Kachak.
L'année qui s'achève a été celle de tous les deux. 2009 restera en effet dans l'histoire comme l'année de la crise la plus violente qui ait secoué le monde depuis la Grande Dépression. La République démocratique du Congo dut revoir son cadrage macroéconomique ainsi que le rythme de son ambitieux programme de reconstruction. Ont été revus à la baisse les taux de croissance et à la hausse des taux d'inflation et d'échange. Les investissements projetés ont été différés, sinon annulés. Ceux en cours d'exécution ont ralenti, voire suspendu. Ces décisions touchant le plus le secteur moteur de croissance, à savoir les mines et subsidiairement les bâtiments et travaux publics. Il n'y a pas eu création d'emplois dans les proportions escomptées, ni une génération notable de revenus additionnels pour les individus et les ménages. Il est réconfortant de constater que, quoique encore timide, des signes de reprise de l'activité économique sont de plus en plus perceptibles. Selon les estimations sérieuses du fait de cette reprise, le taux de croissance devrait au moins doubler d'ici l'année prochaine, passant de 2,7 à fin décembre 2009 à plus de 5,4% en 2010.
Maître Patrick Lindo, il faut dire quand même que la situation économique du pays n'est pas du tout bonne. La dévaluation de la monnaie locale, les prix qui haussent tous les jours sur les marchés. Et dans le discours, le chef de l'État annonce que le taux de croissance devrait passer de 2,7 à 5,4 en 2010 par quel mécanisme?
Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que le meilleur thermomètre de la vie économique, c'est la population, voyez-vous. Et si nous faisons avec vous un tour dans la population, vous allez vous rendre compte que l'on peut tout dire sur les avancées sur le terrain économique, mais dès lors que ces avancées ne s'accompagnent pas des avancées sur le plan social, il y a un décalage, il y a un plus et ça ne va pas. Donc je pense sincèrement que la croissance économique telle que le chef de l'État vient de le dire ne saurait se manifester si au niveau de la gestion même de la chose publique, on s'imposait de plus en plus de disciplines. Vous savez, je peux vous dire une chose qui me surprend, c'est qu'à longueur des journaux, quand il m'arrive de parcourir, à longueur des journées, dis-je, quand il m'arrive de parcourir en fait les différents journaux, bien, je me rends compte qu'il y a toujours des scandales financiers, voyez-vous. Donc on ne saurait pas palper du doigt les effets d'une quelconque croissance si la tolérance est zéro, si la lutte contre la corruption se cherche encore sur le terrain. Donc je pense que le chef de l'État, avec le gouvernement, dispose déjà des agrégats sérieux de réussite, si vous voulez, de leur action économique, dans ce sens qu'ils doivent renforcer la tolérance zéro et ils doivent aussi donner beaucoup plus être beaucoup plus regardant, si vous voulez, dans la manière dont la chose est en train d'être gérée. C'est ainsi que si je vous ai évoqué, parlant du premier aspect, des missions d'audit sérieuses, vous savez, et le royaume du Maroc a aussi envisagé à un moment donné avec le roi actuel cette politique des grands travaux, mais le roi marocain a pu commettre une maison d'audit française pour que cette maison suive en fait pas à pas la réalisation, les affectations financières d'avoir les ressources sur le terrain. Donc je crois savoir que la croissance économique ne saurait pas et se présumer. La croissance économique, c'est en fait le fait du reflet même de l'activité économique sur le terrain. Si tout est en berne, croyez-moi, cette croissance ne serait qu'utopique.
Merci, Maître Fassi Lendo. Honorable Martin Moukonkole, est-ce possible d'ici 2010 de doubler la croissance économique du pays avec tout ce qu'on rencontre comme mot ici dans ce pays, l'impunité, la corruption?
Madame, le chef de l'État lui-même venait de dire qu'il a constaté qu'en 2009, il y a eu l'absence de création d'emplois. Quand il y a l'absence de création d'emplois, et je me demande, et on va augmenter les taux de croissance, passer de 2,7 à 5,4, comment? Les 2,7 là, ça fait les résultats de 3 ans. Est-ce que c'est dans une année, madame, qu'on va doubler? On a créé combien d'emplois? Et on les a sécurisés comment? Et ils seront entretenus de quelle manière? Sinon, nous vivons au jour le jour avec des licenciements massifs dans les différentes entreprises. Nous vivons, madame, avec le non-respect des textes qui régissent la gestion de la République. Nous vivons, madame, avec la non-application des SMIC. Nous vivons, madame, avec l'impayement permanent et l'impayement total des fonctionnaires de l'État. C'est peut-être en acceptant même de payer les fonctionnaires de l'État. Et nous vivons dans ces pays, madame, avec la non-application du budget qui a été voté par le gouvernement. Et le budget, pour l'évaluation de l'État, mais qui n'est jamais exécuté par le gouvernement. Madame, on va augmenter ces taux de croissance magiquement, comment et avec quelles ressources, madame? Non.
Ce n'est pas pour de
madame, la croissance économique. Qui peuvent nous amener à cette augmentation du taux de croissance. C'est pourquoi nous disons que les chefs de l'État comprennent que ces différentes déclarations ne doivent pas être considérées par ceux qui l'accompagnent comme des slogans. Tolérance zéro. Que les chefs de l'État peuvent se sanctionner. Pourquoi il est trop lent à la sanction? C'est comme ça que ces collaborateurs ont déjà compris, comme certains chefs qui sanctionnent difficilement, c'est certains chefs qui est trop lent à la sanction, ils continuent dans les habits. On continue à sanctionner ceux qui... Figurez-vous, le chef de l'État promet bien billet. On sanctionne pas. Mais ces gens sont en train de continuer à danser tous les jours parce qu'ils savent qu'ils ont un chef qui sanctionne difficilement, qui prend beaucoup de temps. Et à ce moment-là, c'est lui qui va rendre compte à la population qu'elles ne sont pas ses ministres, c'est lui. C'est comme ça que nous nous disons, madame, quand un fonctionnaire de l'État n'est pas payé, comment on va réfléchir sur l'augmentation du taux de croissance? Parce que c'est lui qui doit avoir un peu d'argent, qui doit l'acheter, qui doit épargner, qui doit faire tout ça, madame.
Merci, Laurent.
Au lieu de venir, ils sont dans des commissions des gens. Les gens les bloquent parce qu'ils doivent recevoir leurs intérêts, ils doivent recevoir leurs commissions, ils doivent loger l'argent dans des banques étrangères.
Honorable, donc, merci, on vous a compris. Je dois passer la parole à l'honorable Passez à Pamba parce que nous tendons vers la fin de notre émission. Honorable, je vais vous demander aussi d'être bref dans votre réponse. Le chef de l'État a évoqué la question sur le climat des affaires en RDC qui est un objectif prioritaire sur lequel devra être jugée l'efficacité du gouvernement. La question c'est de comprendre comment comprendre ces propos du président devant le Congrès quand on sait qu'il y a quelque temps l'ambassadeur du Canada disait qu'il était impossible d'investir actuellement en RDC.
Oui, c'est vrai, cette préoccupation du chef de l'État doit être soutenue et encouragée. Et pour que tout cela puisse aller de l'avant, la réponse est simple. C'est le financement par le gouvernement de réformes qui ont été préconisées. Il faudra que notre administration fonctionne comme une administration moderne. Cela sous-entend qu'un certain nombre de préalables doit être rempli. Parce que vous avez suivi le collègue Moukonkoli qui vous dit que votre affamé n'a point d'oreille. Celui qui n'a pas été payé et qui n'a pas les ressources nécessaires ne peut pas produire tel qu'il se doit. Donc, je dirais pour être bref, il faut qu'on finance les réformes et que ces réformes aboutissent. On ne doit pas rester d'année en année dans les réformes. Il doit y avoir un temps pour commencer ces réformes, un temps pour les terminer, afin que ces réformes donnent à l'administration ce dont nous avons besoin. Donc, il faudra à ce niveau-là qu'il y ait une affectation rationnelle. Parce que je voulais un peu revenir, madame, avant de parler aussi de ce climat.
On a plus beaucoup de temps, il nous reste 3 minutes seulement pour terminer cette émission.
Donc, je voulais soutenir, par exemple, un cas concret de la rétrocession, parce qu'aujourd'hui, on parle des fonctionnaires qui sont de la DGI, des Gérard, au FIDA. Vous savez que chaque jour qu'ils sont en grève, il y a un manque à gagner terrible pour le trésor public. Et ce genre de comportement, en principe, doit être sanctionné le plus rapidement possible lorsqu'on sait que le climat d'affaires, l'obtention des documents, parce que c'est là aussi, la multiplicité des impôts et les tracasseries, ce sont tous ces éléments-là, n'est-ce pas, qui doivent faire l'objet des réformes. Parce que pour améliorer ce climat
pour conclure, on a
besoin de réformes. Des réformes qui doivent être entreprises et exécutées pour permettre
Merci honorable maître Patilendo. Le chef de l'État a aussi évoqué la mauvaise position qu'occupe la RDC au classement de Doing Business. Que faire pour sortir la RDC de cette mauvaise position? Ça sera aussi votre conclusion en 30 secondes.
Vous savez, il faut pour le peuple congolais un ressaisissement moral, madame. Nous avons évoqué la tolérance zéro, nous avons évoqué la lutte contre la corruption, on a évoqué tantôt les multiples grèves qui gangrèneraient encore l'administration, mais il faudrait que nous nous mettions d'accord en fait à remettre notre administration sur le bon rail, parce qu'il y a un chevauchement impossible dans la gestion de l'administration, tout est politique ici, et je me demande comment on va s'en sortir, mais voyez-vous, on parle du climat des affaires, mais les secteur minier, c'est le secteur qui attire le plus d'investisseurs possible. Vous avez évoqué même le cas du Canada. Mais lorsque le personnel du cadastre minier, qui est en fait l'instrument par excellence d'administration du code minier qui attire les gens, mais accuse 4 mois d'impayement. Comment voulez-vous que le Congo puisse changer?
Merci beaucoup, Fatilendo, honorable Martin Moukonkole, en 30 secondes, votre conclusion.
La conclusion, madame, pour que le social et l'économique soient réellement autonomes, afin que le peuple congolais tire son profit, il faut instaurer la bonne gouvernance. La bonne gouvernance égale la volonté de servir. La bonne gouvernance égale le respect des sexes. La bonne gouvernance égale l'attention de ceux qui ne obéissent pas. Mais je vais dire que les collègues, parce qu'ils venaient de parler de la rétrocession au niveau des régies financières, madame, je vous dis, ces messieurs-là, après qu'ils aient travaillé, après qu'ils aient mobilisé des recettes, l'État a utilisé, ça n'arrive jamais à les motiver.
Honorable, s'il vous plaît, nous sommes obligés de vous interrompre sur la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Et c'était Sidaka Leta à la technique, à la réalisation Guy Mathéo, au micro, qu'elle écoutait. Restez branchés sur Okapi. Quant à moi, je vous retrouve demain.
demain, même heure, même fréquence.